partir de 9h10 TU sur RFI.
Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. L'antenne vous appartient comme tous les matins. RFI vous donne la parole et dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur une question qui ressurgit régulièrement en Centrafrique. Faut-il accorder une amnistie aux groupes armés pour favoriser la paix? Depuis jeudi, le gouvernement centrafricain et les groupes armés qui contrôlent tout de même 80% du territoire sont réunis à Khartoum, au Soudan, pour un dialogue national. C'est d'ailleurs la première fois depuis le début de la crise, il y a 5 ans, que les chefs de guerre dialogue directement avec de hauts responsables du pouvoir centrafricain. Seulement, voilà, parmi la centaine de revendications, les groupes armés réclament surtout l'amnistie. Pour les autorités centrafricaines, ce point est non négociable. Alors, qu'attendez-vous concrètement du dialogue de Khartoum? Quelles concessions devront faire les autorités? On en parle ce matin sur RFI. Vos réactions nous intéressent. Elles nous arrivent au standard au 33 9 693 693 70. J'ai également des dizaines de commentaires sur la page Facebook de l'émission. Vous connaissez la page, RFI Appel sur l'actualité, mais aussi sur le compte WhatsApp de l'émission. Je vous donne le numéro, le 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien appelez-nous et nous vous répondons évidemment en direct. Et on va commencer justement avec une question concernant ce dialogue de Khartoum. Bonjour Yvon.
Bonjour.
Merci de nous appeler de Bangui en Centrafrique. On vous écoute. Quelles sont vos questions?
Ben oui, bon, le gouvernement centrafricain et les groupes armés se retrouvent maintenant à Khartoum pour négocier la paix. Mmh. Moi, je voudrais savoir la première question. Pourquoi le choix de la ville de Khartoum?
Ah.
Et puis maintenant de deux. Il y a des rumeurs à propos de l'amnistie, mais quelles sont les autres revendications des groupes armés?
Effectivement, on parle beaucoup d'amnistie, on parle également de partager le pouvoir, mais au total, c'est une centaine de revendications que les groupes rebelles ont mis sur la table. On va essayer d'y voir plus clair avec Esdras Zikoumana. Bonjour Esdras.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI. D'abord, comment expliquer le choix de la ville de Khartoum? C'est vrai que le fait d'avoir choisi la capitale soudanaise a un peu surpris un certain nombre d'observateurs.
Oui, tout à fait Juan, ça a été une surprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, c'est la ville de Brazzaville qui avait été pressentie pour abriter les négociations entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. C'était du moins le choix initial de l'initiative africaine qui est soutenue par l'ONU, les organisations régionales ainsi que les principaux pays occidentaux dont la France. Voilà, et cette initiative avait son propre agenda. Mais il y a quelques mois, la Russie et le Soudan ont lancé une initiative concurrente en réunissant à Khartoum de nombreux groupes armés centrafricains. À l'époque, les deux pays tentent même d'inviter le président Touadéra à Khartoum qui était prêt à y aller, mais celui-ci va décliner fidèlement l'invitation suite aux pressions de la France, de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment est-ce que ça a changé? Eh bien, on ne le sait pas exactement, mais après une réunion à marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président centrafricain a annoncé au cours d'une visite de haut niveau Union africaine-ONU il y a quelques semaines que les négociations allaient débuter le 24 janvier sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine uniquement, mais à Khartoum et non plus à Brazzaville comme c'était prévu.
Alors peut-on parler, Esdras, tout de même d'une victoire de cette initiative russe?
Parce que ce n'est pas aussi simple, en fait, de dire de laquelle des deux initiatives sort vainqueur de ce duel. Officiellement, c'est l'Union africaine qui mène la danse avec l'appui de l'ONU à Khartoum. Mais il faut reconnaître que la Russie exerce une influence de plus en plus grande en Centrafrique, qu'elle est parvenue à convaincre certains des groupes ex-Seleka, du moins les plus importants, de faire le déplacement alors qu'ils étaient réticents. Ce pays aurait d'ailleurs assuré le transport aérien de certains parmi eux. Enfin, le choix de Khartoum n'est pas anodin, car il traduit une forme de reconnaissance reconnaissance, justement, comme je le disais, dans l'importance grandissante de la Russie, mais du rôle aussi du Soudan. Ce pays est souvent accusé d'armer les groupes armés ex-Seleka, notamment, qui sont issus de la communauté islamique de la Centrafrique, et qui comptent en plus en leur sein un certain nombre de combattants d'origine soudanaise.
Alors,
ce pays est apparu incontournable.
Alors, incontournable, on aura l'occasion évidemment de donner la parole tout à l'heure aux auditeurs sur le choix de la ville de Khartoum. Un mot tout de même, et c'était la question d'Yvon, sur les revendications. Je le disais tout à l'heure, sur la table, il y a plus d'une centaine de revendications. On parle énormément de cette demande d'amnistie, on parle également d'un partage du pouvoir. On a une idée des autres revendications ou pas ?
Oui, juste un petit mot d'abord sur comment ça se passe les négociations. Les groupes armés qui contrôlent 80%, comme vous l'avez souligné là, eh bien, du territoire centrafricain, ces groupes, normalement, eh bien, se déchirent pour leurs intérêts, notamment le territoire, les sources de revenus, etc. Mais là, pour la première fois, ils sont tous ensemble et parlent d'une même voix. Ils ont même présenté un document commun il y a 2 jours, justement, qui contient leurs exigences. Comme vous l'avez dit, cela va de l'amnistie générale à la formation d'un gouvernement de sortie de crise. Ils exigent notamment le poste de premier ministre, etc. Ils exigent leur intégration dans les corps de défense et l'administration, mais on n'a pas encore tout à fait le détail de toutes leurs exigences.
Oui, donc il faut patienter un peu. La paix doit-elle passer par l'amnistie ? Doit-elle passer par un gouvernement d'union nationale, comme le réclament les chefs de guerre ? On en parle évidemment dans moins d'une demi-heure sur RFI 33 6 33 9 693 693 70. Merci beaucoup Ezra Zikoumana et on salue évidemment Yvon qui nous appelait de Bangui. Macédou est en ligne de Bamako au Mali. Bonjour Macédou.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons. Vous avez des questions sur la toxicité des couches pour bébés après la découverte en France de substances chimiques dangereuses dans les couches jetables.
Absolument Juan. Juan, permettez-moi de saluer votre équipe qui fait un travail formidable.
Merci de vos encouragements.
Merci beaucoup. En France, après une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, il semblait que les couches pour bébés contiennent des produits à risque pour la santé. À ce propos, Juan, je voudrais savoir comment de tels produits se retrouvent dans les couches pour enfants.
C'est une bonne question, évidemment, qui a surpris plus d'un parent en France après la publication de ce rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les conclusions de cette étude sont inquiétantes, puisque des substances chimiques sont présentes dans ces couches et elles peuvent être dangereuses pour la santé des tout-petits. Le gouvernement a évidemment tout de suite réagi en convoquant les fabricants pour leur demander d'éliminer ces produits. Anna Pekarek, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service France de RFI. Peut-être avant de répondre à la question de Macédou qui est très précise, pouvez-vous déjà nous rappeler de quelle substance parle-t-on ?
L'Agence de sécurité sanitaire a analysé la composition des couches jetables, aussi bien classiques qu'écologiques, qui sont vendues en France par 23 marques différentes. Elle y a identifié une soixantaine de substances chimiques, des pesticides, dont la majorité sont aujourd'hui interdits dans l'Union européenne, du glyphosate, le tristement célèbre herbicide de Monsanto, des dioxines, de nombreux produits parfumants ou encore des molécules que l'on retrouve d'habitude dans la fumée des cigarettes. Et ce qui est le plus alarmant, plusieurs de ces substances dépassent les seuils réglementaires.
Oui, alors l'Agence de sécurité sanitaire rappelle que dans les 3 premières années de sa vie, un enfant porte en moyenne 4000 couches. Quels sont les risques pour la santé des enfants ?
Les substances dont nous parlons sont potentiellement toxiques, surtout à doses élevées. Elles migrent dans l'urine des nourrissons, agressent leur peau et peuvent provoquer des allergies, des infections et des inflammations. Certains de ces produits sont par ailleurs connus pour être à plus long terme cancérigènes. D'autres sont capables de perturber le système hormonal d'un organisme humain.
Alors Macédou nous demandait comment de tels produits se retrouvent finalement dans des couches pour enfants.
Les seules substances ajoutées sciemment par les fabricants sont, vous le devinez Macédou, des parfums. Les autres sont probablement apparues au cours du processus de fabrication, par exemple pendant le chauffage des matériaux ou lors de leur blanchiment avec des agents chlorés. Les pesticides, eux, pourraient provenir des matières premières, principalement de la cellulose, contaminées avant même la fabrication de couches. L'Agence de sécurité sanitaire regrette au passage que les auditions des fabricants menées dans le cadre de l'étude n'aient pas permis de connaître avec précision la nature des matériaux avec lesquels sont fabriquées leurs couches pour bébés. Elle invite les industriels à plus de transparence.
Oui, et le gouvernement demande aux fabricants de prendre des engagements d'ici la semaine prochaine. Vous avez une autre question, Macedou ?
Absolument, Juan.
On vous écoute.
Comment expliquer que le gouvernement demande aux fabricants de limiter la présence de ces produits, alors que la ministre de la Santé a affirmé qu'il n'y avait pas de risque pour la santé des enfants ?
On a du mal à effectivement y voir très clair, Anna Picarec.
Tout à fait. Mais 95% des bébés en France utilisent des couches jetables et je pense que la ministre de la Santé a voulu rassurer les parents. Elle a dit en effet qu'il n'y avait pas de risque grave et immédiat. Elle a reconnu toutefois le risque potentiel sur le long terme. Le gouvernement a donc décidé d'appliquer le principe de précaution et a donné aux fabricants de couches un délai de 6 mois pour changer leur processus de fabrication et réduire, ou mieux éliminer, tous les produits qui peuvent être dangereux pour la santé des bébés.
Le gouvernement a-t-il rassuré les parents ou pas ?
À vrai dire, je ne crois pas, car il y a trop de questions sans réponse. Le rapport nous dit qu'il y a des substances nocives dans les couches jetables. Le gouvernement convoque les producteurs, mais ne communique pas leur nom. Les parents voudraient pourtant savoir quelles marques sont concernées. Certaines seulement, ou peut-être toutes. La loi est très claire. À partir du moment où il y a un danger pour la santé, les produits doivent être impérativement retirés du marché.
À suivre donc. Macedou, a-t-on répondu à vos questions ?
Je suis satisfait.
Et bien tant mieux. Merci d'avoir appelé et merci à Anna Picarec qui est venue vous répondre. Il est 9h22 ici à Paris. Vos questions, appelez-nous 33 9 693 693 70. Alejandro Alente, le chef du service des sports de RFI, nous rejoint à l'instant. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Bienvenue dans ce studio. Nous accueillons Brigitte qui nous appelle de Paracou au Bénin. Bonjour Brigitte.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons avec Alejandro Alente.
Et Juan Gomez, suite à la condamnation de Cristiano Ronaldo à 24 mois de prison pour fraude fiscale, nous constatons que beaucoup de joueurs en Espagne sont souvent condamnés pour cette fraude fiscale. Alors, j'aimerais savoir comment expliquer cette fraude. Peut-on parler d'une salle et comment faire pour y remédier ?
Ah, Alejandro Valente, rappelons que Ronaldo, l'attaquant de la Juventus, a été condamné la semaine dernière par un tribunal de Madrid à 23 mois de prison ferme, à une amende de près de 19 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, pour fraude fiscale lorsqu'il jouait au Real. Et Brigitte a raison, Ronaldo n'est pas le premier joueur à avoir évolué dans le championnat espagnol et avoir eu des problèmes avec le fisc. On pense à Messi, on pense à Neymar, à Falcao, enfin la liste est longue.
La liste est très longue et ne concerne pas seulement de footballeurs d'ailleurs, il y a d'autres sportifs. En fait, pour comprendre, il faut savoir déjà qu'en Espagne, la fraude fiscale est quand même une activité très pratiquée, y compris dans la sphère politique.
C'est un sport national.
C'est presque un sport national et jusqu'à récemment, ça ne suscitait pas non plus un émoi considérable de l'opinion publique, mais des scandales conséquents dans la sphère politique et notamment au parti populaire qui a gouverné l'Espagne jusqu'à récemment avait quand même ému l'opinion publique et beaucoup soupçonné les autorités de l'époque de mettre un peu en avant ces cas des sportifs afin de masquer un petit peu le scandale politique. Mais cela dit, il y a un vrai problème et qui concerne essentiellement les droits d'image. Vous savez, un footballeur est payé d'un côté par son club en salaire, et ça c'est difficile à frauder, et puis il y a toutes les activités annexes, publicité, marketing, etc., qui se prêtent plus facilement à la fraude fiscale, parce que souvent ces revenus sont générés à l'étranger, il y a souvent des sociétés écrans qui interviennent, et du coup suivre ces mouvements d'argent devient compliqué. En plus, il y avait en Espagne un système qu'on appelait la loi Beckham qui s'appliquait aux footballeurs jusqu'en 2015, qui leur permettait de payer des taxes plafonnées. Mmh. On disait que l'Espagne était un peu un paradis fiscal pour le footballeur étranger.
Et puis, il y a une quinzaine d'années, je crois que la loi a été modifiée.
Et cet avantage a fini par disparaître. Donc, du coup, les assesseurs fiscaux des footballeurs ont dû chercher, faire travailler leur imagination pour essayer de préserver les revenus de leurs clients. Et souvent, à ce niveau-là, il y a eu des dérapages. Mmh. Dans le cas de Cristiano Ronaldo, ce qui est un peu particulier, c'est le montant. Dans la plupart des cas, vous parliez par exemple de Messi, c'était un montant de 4 millions d'euros. La plupart des cas, c'était des 3, 4, 5 millions d'euros. Le cas de Cristiano était largement supérieur, 18 à 19 millions d'euros. Et donc, potentiellement, il aurait pu risquer la prison. Messi, par exemple, a été condamné à 21 mois de prison pour 4 millions. Là, on était dans des sommes beaucoup plus importantes. Donc, Cristiano, dans un premier temps, a voulu refuser toutes les accusations portées contre lui. Mais finalement, il a fini par négocier avec le fisc.
Mais il n'ira pas en prison.
Il n'ira pas en prison parce qu'il a réussi à négocier de façon très avantageuse. Disons que le montant qui lui était reproché et qui était quand même prouvé par l'administration fiscale était autour de 18 millions. Il a négocié pour que le montant finalement retenu ne soit que de 5 millions environ. Mmh. Ce qui explique que le montant qu'il a payé soit pratiquement identique à la fraude initiale, alors qu'on parlait des 30 millions au départ et d'une peine de prison plus importante. Donc finalement, il a fini par bien négocier et beaucoup saluent même son habileté parce que finalement, il a dû se présenter la semaine dernière devant les tribunaux et il a transformé ces moments difficiles en moments de gloire presque puisqu'il est apparu au bras de sa femme. Très bien habillé, lunettes de soleil, c'était presque une montée des marches, souriant et détendu. Et finalement, tout s'est bien passé pour lui et il a pu tourner la page de cette affaire.
Merci beaucoup Alejandro Valente d'être venu répondre à Brigitte, à qui nous souhaitons une bonne journée. Du côté de Paracou, au Bénin, Fabrice nous rejoint, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Kinshasa. Allez... Ben, je vais très bien, et vous?
Et moi aussi, je vais très bien.
Bon.
Vais
très bien. Très bien, vous avez des questions sur le shutdown? Le shutdown aux États-Unis.
Ouais. Le président Trump a annoncé avoir trouvé un accord avec les démocrates mettant fin temporairement à la crise des shutdowns. On sait qu'il s'agit d'un accord temporaire qui prévoit le financement du gouvernement fédéral qui est pour les 3 semaines à venir. Mmh. Alors, peut-on envisager un nouveau bras de fer entre Trump et les démocrates dans les jours à venir?
Ah. Effectivement, se dirige-t-on vers une nouvelle paralysie partielle du gouvernement fédéral? C'est une bonne question. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Il y a eu cet accord, ce compromis trouvé donc vendredi entre Trump et les parlementaires. Pour autant, l'accord, comme le rappelait Fabrice, permet de financer les services publics fédéraux que jusqu'au 15 février. Quid ensuite?
Alors, quid ensuite? S'il n'y a pas de compromis trouvé sur l'immigration, et en particulier sur le fameux mur que veut construire Donald Trump et qu'il veut voir financé par le Congrès, on devrait repartir pour un nouveau shutdown. Sauf qu'on a du mal à le concevoir, puisque Donald Trump, cette première fois, a totalement cédé. Et on le voit mal repartir pour un second shutdown, surtout quand on considère les répercussions économiques lourdes, les gens pas payés, les troubles à la circulation aérienne. On le voit mal repartir pour un second shutdown, alors que il a achevé le premier en disant « Bon, finalement, j'accepte que mon mur ne soit pas financé. » Par contre, ce qu'on peut envisager, c'est une autre solution, c'est-à-dire la déclaration de l'état d'urgence.
L'état d'urgence, justement. Vous nous rappelez ce que signifie ce procédé qui a souvent été utilisé par les dirigeants, les présidents américains dans l'histoire contemporaine.
Oui, absolument, puisque depuis une loi de 1976, ce pouvoir du président a été codifié et depuis lors, il y a eu de fréquents recours. Il s'agit pour un président, par décret, donc sans l'autorisation du Congrès, de constater et de décider qu'il y a un état d'urgence concernant la sécurité du pays. Ici, ce serait à la frontière avec le Mexique. Et dans ce cas, le président peut transférer des fonds déjà votés par le Congrès pour autre chose. Ici, ce serait par exemple des fonds alloués à l'armée pour la construction de digues dans le cadre, dans les régions touchées par les ouragans, et de transférer ces fonds pour commencer la construction du mur.
Ouais. Enfin, rien ne dit que Donald Trump ira jusqu'au bout, puisque ce passage en force risque d'être contesté devant les tribunaux, et l'idée ne fait même pas l'unanimité dans son propre camp. Merci beaucoup, Corentin Célin.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.